Gloire à Dieu. On a lu ce texte, il est un peu long, mais je me disais toujours qu'il fallait qu'on le lise en entier pour avoir tout le contexte et comprendre exactement de quoi il retourne, de quoi il s'agit. Peut-être avant d'entrer dans la prédication, je voudrais faire juste quelques remarques. J'aime bien prendre des notes de temps en temps. Je me rends compte que, d'abord je voudrais dire merci à l'équipe de Louange, hein. Le duo de louange de tout à l'heure, merci beaucoup. Et le Seigneur est bon parce que tous les chants que nous avons chantés tournaient autour de ce thème-là. Bénir l'Éternel. Le bénir en tout temps, en toutes circonstances. Qu'elle soit favorable ou non. Que j'ai l'impression d'être en train de m'éclater. Ou simplement que je sois dans des phases très compliquées de ma vie. Dans tous les cas, je bénis l'Éternel, parce que lui, il est aux commandes, il est le maître de la vie. Et c'est ce que ce texte que nous avons lu nous dit aussi. Toi seul es Dieu, et je me soumets à tes voies. C'est ce que vous avez chanté tout à l'heure, vous vous rappelez? Donc, revenons à ce texte que nous avons lu. J'ai intitulé ce message « Anne, le réveil de la foi ». Voyez-vous? Si je demandais à quelques-uns ici, là, cet après-midi, si je vous demandais, est-ce que vous avez la foi? Est-ce que vous avez la foi? Qu'est-ce que vous répondriez? Non, certainement, vous allez dire, oh oui, nous avons la foi. D'accord. Mais voyez-vous, c'est mon frère qui dirigeait la louange tout à l'heure qui a dit parfois, on a cette foi complètement intellectuelle, c'est-à-dire qu'on sait que Dieu est là, on sait que Dieu existe, on croit que Jésus-Christ est une réalité, on veut bien lui donner son corps. Mais est-ce que c'est une réalité dans mon cœur? Parce que ça fait toute la différence. Parce que, voyez-vous, on peut s'installer dans des habitudes que j'appelle spirituelles. Ma sœur qui partageait tout à l'heure, a dit, lire sa Bible, prier, ça c'est une chose incontournable. C'est vrai, si on veut grandir spirituellement, il faut passer du temps dans la méditation de la parole de Dieu, dans la lecture de la Bible, dans la prière, c'est incontournable. Mais il arrive aussi que on prend l'habitude de ces choses. Le matin, je lis ma Bible, je prie avant de manger, le soir, ou bien je mets un petit CD pour la louange. Ça devient un rituel, voyez-vous? Et on n'y gagne plus quelque chose de substantiel. On s'installe dans des habitudes. Les habitudes, comme je dis, sont des choses importantes. Mais il ne faut pas qu'elles soient complètement vidées de leur sens, ces habitudes. Il faut que ces habitudes continue de nous apporter une réelle communion avec Dieu, un cœur à cœur avec Dieu. Sinon, on dira, j'ai la foi, c'est vrai. Mais est-ce que c'est une foi vivante? Parce que voyez-vous, dans Apocalypse 3, les versets 1 et 3, Jésus dira à l'église de Sardes, tu passes pour être vivant, mais voici, tu es mort. Tu passes pour être vivant, et voici, tu es mort. Ça fait peur, hein? Parce que les autres peuvent croire que vous allez très bien, que tout va très bien dans votre vie, mais en réalité, avec Dieu, qui voit le cœur et à qui on ne peut pas mentir, il se trouve que vous restez purement et simplement superficiel. Alors, revenons à ce texte que nous avons lu tout à l'heure. Vous l'avez lu et vous le connaissez, je présume, vous connaissez le passage pour la plupart d'entre vous ici. Parce que je présume que vous lisez votre Bible. Il y a là un ménage dysfonctionnel. C'est le premier point. Un ménage dysfonctionnel. Ménage qui fonctionne pas bien. Il y a des problèmes dans ce ménage. Voyez-vous, ce passage nous parle d'un homme, Elkanah. Cet homme était marié à une femme qui s'appelle Anne. Il se trouve que, pour des raisons qui échappent à Elkanah et qui échappent à Anne, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Comme elle ne pouvait pas avoir d'enfant, qu'est-ce qu'il a fait Elkanah? Ben, il est allé chercher une autre femme. Aujourd'hui, on dirait le goujat. Non, non, non. Non, parce que dans les habitudes de l'époque, c'est quelque chose de complètement naturel, complètement normal. C'est pour ça qu'avant de porter un jugement sur quelque chose, prenez le temps de vous renseigner. Parce que pour l'époque, c'était quelque chose de complètement normal. Parce qu'il était inconcevable que quelqu'un, qu'une femme, qu'un homme marié, une femme mariée, ne puisse pas avoir d'enfant. C'était considéré comme une malédiction. Donc, vous connaissez la famille, elle est là, elle est gentille, mais il y a la pression derrière. Elkana, c'est pas normal. Tu peux pas rester comme ça. Il te faut des enfants, il te faut des enfants. Et Elkana, qui aimait Anne, la Bible précise. Il aimait Anne. Mais parfois, sous la pression, on fait des choses malgré nous. Et Elkana est allé prendre une femme qui s'appelle Penina. Il est allé chercher Penina et Penina lui a donné des enfants, des fils et des filles. Mais voyez-vous, cela a engendré de sérieux problèmes dans ce couple. Des problèmes relationnels très difficiles. Parce que, comme on l'a lu tout à l'heure, n'est-ce pas, Penina n'arrêtait pas de se moquer de Anne et d'essayer de la meurtrir. Voyez-vous? Il y a une particularité dans la stérilité de Anne. La Bible dit clairement ceci. Dieu l'avait rendue stérile. Dieu l'avait rendue stérile. Voyez-vous, il y a des choses qui arrivent dans vos vies. Et vous vous dites, oh, où est-ce que j'ai péché? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et vous commencez à faire une introversion, vous posez des questions, mais vous refouillez chaque petit coin et recoin de votre vie. Et vous vous dites, mais où est le problème? C'est peut-être moi, c'est moi. Non. Parfois, simplement, vous êtes là où le Seigneur veut que vous soyez, malgré le problème que vous avez. C'est pour ça qu'on doit demander au Seigneur la sagesse et le discernement. Dieu l'avait rendue stérile. Problème, c'est qu'elle n'ignorait pas ça, Anne. Mieux encore, Penina, sa coépouse, comme on dit, ne l'ignorait pas non plus. Elle savait que Dieu l'avait rendue stérile. Elle était stérile, pas de sa faute, on dira. C'était le plan de Dieu pour elle. C'est parfois compliqué à comprendre. Que le plan de Dieu permette que l'on passe par des moments de souffrance, des moments d'humiliation, parce que c'était une humiliation pour cette femme. Vous connaissez certainement ce passage dans Jean au chapitre 9, 1 et 3. Parce qu'à l'époque, voyez-vous, si vous arrive quelque chose, c'est que vous avez péché. Il est inconcevable que vous ayez des problèmes à cette époque, même encore aujourd'hui, dans certaines circonstances, sans que ce soit la conséquence d'un péché. Alors, dans Jean 9, 1, 3, il est dit ceci. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents? Pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Parfois, les circonstances difficiles dans lesquelles nous passons sont là parce que Dieu veut révéler simplement sa gloire. Nous sommes des instruments de Dieu. Et nous avons chanté, je me soumets à tes voix. Parfois, se soumettre aux voix du Seigneur nous fait passer par des choses compliquées. Mais le Seigneur est toujours présent dans nos vies. Donc, un ménage dysfonctionnel. Entre Penina et Anne, c'était la guerre. Mais il y avait un instant particulier dans ce couple. Parce que Elkana était un homme pieux, voyez-vous, un homme qui craignait Dieu, un homme qui voulait vivre selon les principes de Dieu. Et tous les ans, il montait pour sacrifier. Il montait pour offrir des sacrifices, n'est-ce pas, pour louer et adorer Dieu, là où se trouvait l'arche de l'Éternel. Et c'était un moment particulièrement difficile. Parce que si dans la maison, je fabule un peu, je me dis, dans la maison, peut-être que Anne pouvait dire, bon, Penina est dans cette pièce, moi je vais mettre dans le jardin dehors. Comme ça, ça va éviter les confrontations. Quand ils étaient à Silo, elle ne pouvait pas faire autrement. Ils étaient assis à la même table. Et la Bible me dit que Pénina profitait pour lui rappeler combien elle est stérile, etc., etc. Et combien, n'est-ce pas, Dieu ne prend pas soin d'elle. La Bible dit que Anne pleurait et qu'elle était triste et qu'elle s'apitoyait sur son sort. Je voudrais attirer votre attention sur une chose. Parfois, les choix que nous faisons dans nos vies nous attirent des situations qui nous mettent en péril. Parfois, les choix que nous faisons dans nos vies, qui sont souvent la conséquence des pressions que nous pouvons subir, lorsque ces choix sont en dehors de ce que Dieu nous dit à travers sa parole, il nous en coûtera toujours des circonstances compliquées, des situations difficiles. Parce que si ce foyer était dysfonctionnel, c'était bien à cause des choix d'Elkana. Est-ce qu'il y a dans ta vie ce matin, cet après-midi, des choses compliquées parce que tu as fait des mauvais choix? C'est possible. Mais ce que je veux te dire, c'est que Dieu est bon malgré tout. Il pardonne. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité, nous dit la parole. La deuxième chose que je veux dire, c'est ne pensons pas que nous pouvons aider Dieu à accomplir ses desseins. Ne pensons pas que nous savons mieux que Dieu. Parce que voyez-vous, il y en a qui pensent qu'ils peuvent aider Dieu. Bon, Seigneur, tu vois bien là, il y a quelque chose, donc je donne un coup de main pour que ça avance plus vite. Peut-être que Elkanah a voulu aider Dieu, il n'était peut-être pas mal intentionné. Mais le problème, c'est que ça a causé un désastre chez lui. Mais il n'était pas le seul. Quand on lit la parole de Dieu, on se rend compte que certaines personnes aussi ont voulu aider Dieu. Vous vous souvenez de Sarah, la femme d'Abraham? Elle a voulu aider Dieu. Dieu avait fait une promesse excellente à Abraham. Il lui a dit, je te donnerai une postérité, sors et regarde les étoiles du ciel. Mais le problème, c'est qu'à 99 ans, elle n'avait toujours pas de bébé. Elle n'avait toujours pas de bébé. Alors elle a dit, certainement Seigneur, tu as certainement dit que ça pourrait passer par une autre voie. Non. Alors elle a pris sa servante, elle l'a mis dans le lit de son mari. Ça aussi, je le dis encore, ça aussi, pour l'époque, c'est quelque chose de normal. Pour nous, ça semble complètement ahurissant, mais ça se faisait. Elle a donc pris sa servante, elle a mis dans le lit de son mari, et Ismaël est né. Et tout le monde sait. Et aujourd'hui encore, nous payons les conséquences de cette tentative d'aider Dieu. N'est-ce pas? Parce que Ismaël, c'est la Palestine, c'est les Palestiniens. Et on sait la guerre qui existe encore aujourd'hui, n'est-ce pas, entre Israël et les Arabes. Seigneur, donne-nous la sagesse de rester dans tes voies, même si les choses sont difficiles. Donne-nous de croire et d'accepter, Seigneur, que tu es aux commandes de tout et que tu sais mieux que nous ce dont nous avons besoin, ce qu'il nous faut. Marchons non point par la vue, mais par la foi. Amen. Dieu ne se trompe pas. Dieu ne se trompe pas. Ces ondes de réalité que nous devons avoir dans nos cœurs. Dieu ne se trompe pas. Dieu est pour moi. Dieu même. Et il est tout puissant. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. La Bible dit, si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Voyez-vous, ces réalités, nous devons les avoir comme des ancres de l'âme. Vous savez à quoi sert une ancre? Vous savez à quoi sert une ancre? Je ne suis pas spécialiste des bateaux, mais je sais une chose. quand la mer est démontée et que le navire risque d'aller à la dérive, qu'est-ce qu'on fait? On jette l'ancre. L'ancre a cette particularité, même si c'est un très gros navire, c'est une grosse pièce métallique, qui a cette particularité de maintenir le bateau en un point, sans qu'il y ait trop de turbulence. Le bateau va giter, va faire y avoir du gîte, mais autour de l'ancre. Voyez-vous, quand il y a des turbulences dans nos vies, que la parole de Dieu, que les promesses de Dieu soient une ancre pour nous. Les choses peuvent, on peut avoir des moments de faiblesse, mais on doit tourner autour de la parole de Dieu et rester centré sur cette parole. Voilà ce que le Seigneur dit. L'Éternel ne t'abandonnera pas. Ésaïe 49, 14 et 16. Si on disait « L'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas compassion du fils qui est sorti de son ventre? Même si elle l'oubliait, moi, je ne t'oublierai jamais. Vois, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murailles sont constamment devant moi. Oh oui, Dieu nous a gravé dans ses mains. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Il a donné sa vie. Et en mourant sur la croix, voyez-vous, ses mains ont été percées. Ses pieds ont été percés pour que nous ayons la vie. S'il a pu payer un si grand prix pour chacun d'entre nous, pensez-vous qu'il soit indifférent aux situations dans lesquelles nous sommes parce que nous voulons lui être agréables? Certainement pas. Les marques des clous sont toujours sur les mains du Seigneur. Parce que quand il est ressuscité, les marques n'ont pas disparu. Il a ces marques constamment. Il a devant lui les marques de son amour pour vous. Alors vous pouvez vous attacher pleinement à ce Seigneur et lui faire pleinement confiance. En Matthieu 6, 31-33, il dit ceci, « Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples, des païens, qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père céleste sait. Si Dieu connaît mon besoin, alors je n'ai pas à m'inquiéter. Parce que ce Dieu qui connaît mon besoin est le Dieu qui est tout-puissant, est le Dieu qui m'aime. Quand vous mettez tout ça ensemble, vous pouvez dormir tranquille et lui faire pleinement confiance. Cherchez, recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu et toutes ces autres choses. Et tout cela vous sera donné en plus. Alors, je recommence avec ma première question. Est-ce que vous avez la foi? Alléluia. Alors, si nous sommes disciples de Jésus-Christ, si nous avons la foi, laissons Dieu agir en toute souveraineté dans nos vies pour accomplir ses plans et ses promesses. Souveraineté, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est lui qui choisit ce qu'il veut faire. Il est souverain, c'est-à-dire il fait comme il veut, comme il le désir. Mais j'ai aussi une autre certitude, mes amis. C'est que Dieu fait concourir toutes choses à mon bien. Dans tout ce que le Seigneur veut, il veut que je sois bien. Ça paraît compliqué à comprendre. Il veut que je sois bien et voilà Anne qui est toujours stérile. qui passe le moins difficile avec Pénina. Mais il veut que je sois bien. C'est pour ça que la sagesse de Dieu est infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser. Nous n'avons qu'une chose à faire. Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je sais que tu es aux commandes. Alléluia. Je ne comprends pas tout, Seigneur, mais je sais que tu es aux commandes de ma vie et je peux continuer à te faire confiance parce que de toute manière, tu sais ce que tu fais. Oh, si nous pouvions toujours dire cela au Seigneur quand c'est vraiment compliqué. Le problème, c'est que quand c'est très compliqué, on commence à chercher des voies humaines. Seigneur, viens à notre secours. Alors, face à l'adversité, on vient de voir une famille dysfonctionnelle avec les leçons qu'on peut en tirer face à l'adversité. Anne, face à l'adversité. Vous voyez, j'ai mis une grosse vague avec tout ce qui va avec. Parce que l'adversité, c'est ça. Quand la mer est déchaînée, c'est un peu comme dans votre vie, quand ça tire de partout, vous êtes face à l'adversité. Comment vous faites? Parce que dans la vie de Anne, c'était ça. C'était ça. Dans la vie de Elkana, c'était aussi ça. Tout était déchaîné. Qu'est-ce qu'elle fait, Anne, face à l'adversité? La première chose, c'est que cette dame pleure sur elle-même. Elle se morfond. Elle laisse Pénina atteindre son âme. Elle laisse Pénina atteindre son âme, sa sensibilité. Elle pleure. Et la Bible me dit, sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. C'est le verset 6 qu'on a lu. C'est-à-dire que elle retournait le couteau dans la plaie, là, quand ils étaient à Silo. Ouais. Il y a des personnes qui ont l'art de vous faire souffrir, de taper là où ça fait de plus en plus mal, qui ont l'art de vous amener à être aigri, qui ont l'art de vous faire hurler de douleur. Et la Bible me dit que chaque fois qu'il montait à Silo, c'était la même chose. Et la Bible me dit que Pénina avait des fils et des filles. Donc ça n'a pas duré 2 ans, ça n'a pas duré 3 ans, ça n'a pas duré 4 ans. Ça s'est duré, je ne sais pas combien de temps. Vous vous rendez compte de ce que cette femme a vécu. Mais il se trouve que pendant tout ce temps, Anne était dans la maison de Dieu. Elle était dans le temple de Dieu. Elle allait louer le Seigneur. Mais elle prenait tout sur elle-même. Malheureusement, ça nous arrive d'être dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu et de passer notre temps à nous plaindre. Je me souviens, c'est pas dans cette assemblée. Il y a une assemblée où j'ai été. Certains responsables, lorsqu'ils voyaient venir certains frères et sœurs, en réalité certaines sœurs, bon, je n'ai rien dit, s'approchaient, ils changeaient de direction. Lorsque la sœur arrivait en face et ils prenaient la porte juste sur leur gauche ou leur droite. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que pour la 101e fois, cette personne va leur redire exactement les mêmes choses. Oh, tu connais, oh, tu sais ceci. Et elle va larmoyer et elle va pleurer sur elle-même. Oui, il arrive un moment où on fatigue les autres avec ça. Voyez-vous? Et Pénina, Anne, fatiguait avec ses larmoiements. Au point où son propre mari n'en pouvait plus. Il lui a dit, mais Anne, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils? Est-ce que mon amour pour toi n'est pas suffisant? Parce que la Bible me dit que quand ils étaient à Silo, Elkana distribuait des portions à tous, mais à Anne, il donnait une double portion. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait. Elle n'avait pas d'enfant, mais il l'aimait. Donc, je peux dire que c'était bien la pression qu'il avait fait prendre une autre femme. Et ça, ce n'était pas suffisant pour Anne. Parce que voyez-vous, le vide qu'elle avait dans son cœur ne pouvait pas être comblé par les biens matériels. Le vide qu'elle avait dans son cœur ne pouvait pas être comblé par l'amour d'un homme. Quelque attentionné qu'il soit. Quand il y a dans notre cœur le vide qui ne peut être comblé que par Dieu, nous pouvons mettre tout ce que nous voulons à la place. Ça ne changera rien. Oh, il vaut mieux abdiquer quand on est au pied de Dieu. Parce que c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Abdiquer devant Dieu, c'est la meilleure chose qu'on peut faire. Eh oui, Anne, dans un premier temps, se morfondait et pleurait sur son malheur. Mais le verset 9, il y a quelque chose qui se passe au verset 9 du passage qu'on a lu. Au verset 9, la Bible me dit que Anne se leva. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le prêtre Élie était assis sur son siège près de la porte du temple de l'Éternel. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et pleura abondamment. Anne se met en mouvement. Anne arrête de pleurer sur elle-même. Elle se lève et elle va, non pas au pied du sacrificateur, du prêtre Élie, mais elle va au pied de Dieu. Elle a enfin compris que dans le temple de Dieu, dans la maison du Seigneur, la meilleure chose à faire, c'est de se mettre au pied du Seigneur. Amen. Se mettre au pied du Seigneur. Quand elle se met au pied de Dieu, la Bible dit qu'elle pleure et elle dit au Seigneur ce qu'elle a. Mais voyez-vous, il y a quand même une chose que j'ai, qui est admirable chez cette femme. C'est qu'elle ne se met pas à incriminer Dieu. Dire, Seigneur, c'est ta faute si je souffre autant. Non. Le verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, si tu n'oublies pas ta servante et lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel. Voyez-vous, ce qu'elle veut, elle ne le veut pas pour elle-même. Elle souffre à cause du système environnant. Ce qu'elle veut, elle le veut pour Dieu. Ce qu'elle veut, elle le veut pour Dieu. Et en s'approchant de Dieu, elle s'approche avec humilité. Elle s'approche en reconnaissant que Dieu est le maître de l'univers. C'est-à-dire qu'elle reconnaît la souveraineté, l'autorité, la grandeur de Dieu. Oh, quand nous nous approchons de Dieu. Oui, déversons notre cœur. Disons-lui que nous sommes tristes, nous sommes malheureux. Mais dans tout cela, n'oublions pas de le glorifier pour ce qu'il est. Parce que lui ne change pas. La Bible me dit qu'il n'y a en lui aucune ombre de variation. Voyez-vous, Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors voilà, Anne a arrêté de pleurer sur elle-même. Où elle était statique, elle s'est mise en mouvement. Elle s'est levée et est allée. Ce que je veux te dire cet après-midi, peut-être tu es assis là et il y a des choses compliquées dans ta vie. Si tu veux que ça change, la première chose à faire, c'est d'arrêter de t'apitoyer sur toi-même, d'arrêter de t'apitoyer sur ton sort. Premier point. Deuxième point, si tu veux que ça change, parle à la bonne personne. Va voir la bonne personne. La bonne personne, avant tout le reste, c'est Dieu en Jésus-Christ. Parce qu'en lui, la Bible me dit que j'ai tout pleinement. Alléluia. Dieu n'est pas un Dieu qui veut te voir malheureux. Dieu est le Dieu qui veut te bénir. Il veut ton bien. Amen. Voyez-vous, Anne est allée se tenir auprès de Dieu. Elle a prié le temps qu'il fallait parce qu'il fallait qu'elle déverse le trop-plein de son amertume. Elle aurait eu encore là l'occasion de se mettre en colère, voyez-vous, parce que sa présence, sa communion avec Dieu était telle que le prêtre s'est mépris. Élie l'a traité pour une prostituée. Concrètement, c'est ça. Une femme légère, c'est-à-dire une prostituée, une femme de mauvaise vie. Mais plutôt que de dire, de se lamenter, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, ne prends pas ta servante pour une femme de rien, pour une femme légère. Vous savez, quand cette femme, Anne, est sortie de cette présence de Dieu, ça n'était plus la même femme. Alors qu'elle ne mangeait pas quand elle allait à Silo, qu'elle passait son temps à pleurer. Quand elle est sortie de là, qu'est-ce que me dit la parole de Dieu? Elle s'est mise à table, elle a mangé, elle a bu, elle s'est mise à louer Dieu. Je crois que j'aurais bien voulu voir la tête de Pénina à ce moment-là. Mais c'est vrai. Ou la tête d'Elkana, son mari, pour dire, mais, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, il s'est passé quelque chose.
elle a eu un cœur à cœur avec Dieu. Et quand vous prenez le temps d'avoir des cœurs à cœur avec Dieu, alors il se passera des choses dans votre vie. Parce que vous ne verrez plus les choses du point de vue de la perspective de l'homme, mais vous verrez les choses du point de vue de la perspective de Dieu. Amen. Et quand on voit sous cette perspective-là, tout change. Parce que nous n'avons plus la même vision des choses. Alléluia. Anne reprend goût à la vie. Ce ne sont plus les circonstances extérieures, ses sens, ses sentiments qui désormais gouvernent sa vie. Elle a retrouvé une vraie relation avec Dieu. Sa foi est enfin réveillée, voyez-vous. Et de temps en temps, parfois, nous avons besoin que notre foi soit réveillée. Ce qui s'est passé pour Anne, voyez-vous, n'est pas le fait de l'homme. Parce que c'est Dieu seul qui peut réaliser ces changements dans les cœurs. C'est Dieu seul qui est capable de vous faire passer de cet état de tristesse à cet état de plénitude. Parce que quand je viens à Christ, le Saint-Esprit de Dieu habite en moi et je deviens une habitation de Dieu en esprit. Oh, si je suis fatigué, faible et que je ne vois plus l'horizon, le Seigneur renouvelle en moi son esprit lorsque je vais passer du temps dans sa présence. Je veux faire remarquer une chose ici. Lorsque Anne revient s'asseoir à cette table et qu'elle est joyeuse, est-ce que quelque chose a changé du point de vue externe, du point de vue de l'extérieur, du point de vue de l'environnement? Est-ce que quelque chose a changé? Non. Est-ce que Pénina a arrêté de se moquer d'elle? Non. Est-ce qu'elle a reçu du Seigneur une promesse ferme? Non. Est-ce que le Seigneur lui a dit, bon, j'ai entendu, l'année prochaine, je te donne ton fils pour que tu me laisses tranquille. Bref, là, c'est moi qui ajoute. Non. C'est ça la foi. Elle a parlé à Dieu et elle a la certitude que Dieu l'a entendu. Quand nous nous mettons devant le Seigneur, croyons la parole de Dieu. Tout son environnement extérieur est resté identique. Les chaises de silo, les tables de silo. Mais ce qui s'est passé en Anne est quelque chose de profondément intérieur. C'est le miraculeux de Dieu. C'est le miraculeux de Dieu. Et c'est celui-là qui réveille notre foi. La Bible me dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne rougit pas de honte. Philippiens 4, verset 6 dit ceci, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. C'est ce que Anne a fait. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Tout ce que l'on peut comprendre. Gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. C'est vrai. La paix de Dieu dépasse tout ce que humainement nous pouvons comprendre. Et voici le dernier verset avec lequel je voudrais vous laisser. Vous le connaissez très bien. C'est Matthieu 11, 28 à 30. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés. Je lis dans cette version. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. Anne est allée devant le Seigneur et elle a trouvé du repos pour son âme. Acceptez mes exigences et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. En effet,
Mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger.
Je voudrais que nous fermions les yeux un moment.
Je ne sais pas, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de le faire dans ce lieu, mais je vais me lancer.
Vous avez entendu cette parole et vous y avez prêté attention parce qu'elle touche un aspect particulier de votre vie. Peut-être êtes-vous comme cette âne. Peut-être ployez-vous sous un lourd fardeau qui vous accable en ce moment et vous vous dites, Seigneur, jusque à quand?
Cet après-midi, je vais prier avec vous et je veux prier pour vous. Si simplement vous levez votre main là où vous êtes pour dire, Seigneur, je veux comme Anne me tenir devant toi. Si vous voulez voir ce changement dans votre vie, levez simplement votre main. Et nous prierons ensemble. Et je prierai pour vous. Merci, vous pouvez baisser vos mains. Peut-être que vous êtes là aussi cet après-midi. Et vous ne connaissez pas le Seigneur Dieu. Vous ne pouvez pas, comme Anne, vous tenir auprès de Dieu. Et dire, Seigneur, je crois ce que tu me promets. Mais vous avez besoin d'être réconcilié dans un premier temps avec Dieu. Recevoir Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur pour enfin avoir le droit d'entrer dans la maison de Dieu, la maison spirituelle, j'entends. Si cet après-midi, vous voulez que Jésus-Christ soit votre Seigneur et votre Sauveur, je vous invite aussi à lever votre main là où vous êtes et nous prierons ensemble et je prierai pour vous. Y a-t-il dans la salle une personne qui veut dire, Seigneur, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur et je veux désormais marcher dans tes voies. Y en a-t-il? Alléluia. Notre Dieu, notre Roi, nous te bénissons pour ta parole. Seigneur, tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu vrai et ta parole est vérité. Merci Seigneur parce que tu es le Dieu qui brise nos chaînes. Merci parce que tu es le Dieu qui nous délivre. Merci parce que tu es le Dieu qui utilise chaque situation de nos vies pour te glorifier Seigneur et pour combler au final nos cœurs d'une joie qui surpasse toute intelligence. Seigneur, tu as vu tes enfants qui ont levé leurs mains. Seigneur, je te prie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Interviens dans chacune de ces vies. Selon ta parole, selon tes promesses, garde-les fidèles dans tes voies, Seigneur. Donne-leur la force et le courage de ne pas tendre les mains vers l'iniquité, vers les choses qui les éloigneraient de toi, mais aide-les, Seigneur, à être centrés sur toi, Seigneur. Parce que c'est en toi seul que nous avons tout pleinement. Donne-leur une foi réveillée, Seigneur, qui croit ta parole et qui marche dans la fidélité à tes voies. Seigneur, je te bénis pour tous tes enfants dans ce lieu. Tu connais les cœurs, tu connais les besoins, tu connais les attentes. Seigneur, je te prie que la foi de chacun soit réveillée, Seigneur. Que tes enfants marchent dans l'intégrité, tous les jours en nouveauté de vie, Seigneur. Que chacune de nos vies te glorifie, Seigneur. Face à l'adversité, face à ce que le monde nous oppose, face à ce que, Seigneur, le monde veut nous faire croire ou distiller dans nos cœurs, donne-nous de tenir ferme et d'être des lampes allumées, des ambassadeurs pour Christ, là où tu nous mets, Seigneur, là où tu nous envoies. Merci, Père éternel, pour toutes tes grâces que tu renouvelles envers nous chaque jour, dans le puissant nom de Jésus. Amen.